Il est 8h23 à Paris, on passe à la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, un plan qui ne veut pas dire son nom.
Annoncer des mesures pour les banlieues tout en réfutant le terme de plan, c'est l'exercice auquel s'est prêté Emmanuel Macron une heure et demie durant hier à l'Élysée devant 600 acteurs de la ville et l'ensemble du gouvernement. L'événement était particulièrement attendu par les élus des quartiers populaires, Pointe Libération, qui depuis plus d'un mois milite activement à grand renfort de tribunes et de pétitions pour que le chef de l'État mette en œuvre l'épais rapport que lui a remis Jean-Louis Borloo le 26 avril dernier pour faire revenir la République dans des quartiers qui se sont enfermés dans le repli identitaire et communautaire. L'ancien ministre de la Ville a proposé un ensemble de 19 mesures qui embrassent tout le spectre de l'action publique, de l'éducation à la santé, en passant par la sécurité. Seulement voilà, constate Libération, Macron a d'emblée affirmé qu'il n'était pas question pour lui d'ajouter un nouveau plan à une liste déjà très longue. Pourtant, relève le journal, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures utiles, fondées sur une idée directrice, rendre leur dignité aux habitants des quartiers populaires, en œuvrant pour une meilleure équité. Une espèce de plan, en quelque sorte, ou un plan-plan, ironise Libé. Quelle mesure ? Eh bien, de l'argent pour la rénovation urbaine, ce n'est pas nouveau, mais c'est appréciable. Des places de crèche, fort bien. Un testing pour débusquer la discrimination par le nom ou l'origine territoriale dans les entreprises. Une instance de recours chargée de vérifier que les quartiers populaires ne sont pas délaissés. Des filières directes de promotion des élèves issus des quartiers ou encore un plan de lutte contre le trafic de drogue qui ne sera pas trop. Est-ce à la mesure du défi ? S'interroge Libération. Eh bien, réponse du journal, non.
Pour le Figaro, Emmanuel Macron va dans le bon sens, mais pas assez loin.
Né avec la politique de la ville, le président de la République en est le fossoyeur. Et ce pragmatisme mérite d'être salué, estime le Figaro. Quels sont en effet les résultats tangibles de ces plans successifs ? Certes, de rénovation urbaine en complexe sportif, la vie s'est améliorée dans de nombreux quartiers. Pourtant, de discours victimaires en testing devant les boîtes de nuit, rien en 30 ans n'a empêché le devenir banlieue de notre pays. Dans ces zones, d'un autre droit, constate le Figaro, l'hybridation entre la délinquance, le trafic de stupéfiants et le djihad rédempteur est une réalité. L'attribution de 1300 policiers supplémentaires, la formation à la vigilance collective, la nomination de référents égalité ou laïcité, les amendes pour outrage sexiste, tout cela suffira-t-il à rendre ces territoires à la République ? Le chef de l'État lui-même, conclut le Figaro, n'avait pas vraiment l'air d'y croire. En fait, analyse La Voix du Nord, ce sont surtout deux visions de l'action publique qui se sont opposées hier. Emmanuel Macron ne croit pas dans ces politiques qui se penchent sur des quartiers en rupture et qui déversent sur eux des mannes. C'est une version politique et moderne des bonnes œuvres d'antan. Les solutions doivent venir de ces quartiers. Pourtant, relève La Voix du Nord, l'État a bel et bien une responsabilité dans le mouvement d'émancipation. Il doit être plus efficace dans ses banlieues qu'il ne l'est ailleurs, dans l'éducation et dans la lutte contre l'insécurité et la radicalisation islamique notamment. Le reste viendra avec les progrès économiques et sociaux ou, conclut La Voix du Nord, ne viendra pas. Et l'humanité de déplorer qu'hier Emmanuel Macron a fragmenté un peu plus la République sous la câlinothérapie des mots vides de fait. Le chef de l'État a mis à mal la politique de la ville. Pas de moyens supplémentaires ou si peu, juste pour tester. L'idée même de réparation des inégalités est enterrée et quoi qu'on en dise, le rapport Borloo avec.
À lire également ce matin quelques articles sur le référendum constitutionnel au Burundi.
L'intimidation l'emporte, titre Le Monde, qui constate que les plus de 73% de oui au référendum vont permettre au président de Nkurunziza de se maintenir au pouvoir. La victoire du guide suprême, renchérit Le Figaro. La nouvelle constitution n'a été publiée qu'une grosse semaine avant le référendum et uniquement sur Internet, s'exclame le journal. Une plaisanterie dans un pays où moins de 10% de la population dispose d'un accès au web. Et le gouvernement avait interdit toute information indépendante. Pierre Nkurunziza avait d'ailleurs promis le ciel à ceux qui tenteraient de militer pour le non. Une opinion qualifiée de ligne rouge. Et de fait, poursuit Le Figaro, toute opposition à Pierre Nkurunziza, de plus en plus hantée par une mégalomanie messianique, est punie comme un crime de lèse-majesté. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, semble encourager cette vision d'un autre temps. Le parti a élevé le chef de l'État en mars dernier, rappelle Le Figaro, au rang d'Imbonetsa Yamao, le guide suprême éternel.
Pour finir, voyage dans le cocon des Bleus. Le cocon des Bleus, c'est C'est ainsi que le Parisien qualifie le centre de Clairefontaine. C'est à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Et c'est là où la préparation de l'équipe de France de football pour le Mondial débute ce mercredi.
Visite guidée par le Parisien de ce lieu mythique du football français où l'équipe de France a ses habitudes et ses rituels. Clairefontaine, c'est un havre de paix au milieu d'un écrin de nature de 56 hectares entièrement dévolu au foot. Un lieu qui, depuis 1984 et l'achat par la Fédération française, s'est transformé en un centre d'excellence où les Bleus sont choyés. Deux terrains leur sont entièrement réservés, en plus d'un centre médical dernier cri. Un vaste espace de 400 mètres carrés dédié à la musculation. Le reste du temps, les Bleus profitent du château, leur résidence au cachet indéniable et aux chambres d'un confort digne d'un hôtel 4 étoiles. Autre détail, relève le Parisien, les bibliothèques du château sont pleines de livres anciens que plus personne n'ouvre depuis longtemps. Tiens, bizarre. Pour se détendre, les Bleus peuvent prendre place dans le salon au trône d'un billard et un baby-foot. Rappel, le 10 juin, les Bleus s'envoleront pour la Russie. Le 16, premier match contre l'Australie. Le 21, ce sera contre le Pérou. Le 26, contre le Danemark. Ensuite, eh bien, Arnaud, on verra.
Oui, on verra. Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver, bien évidemment, sur RFI.fr.